L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir depuis Zurich le professeur Hans Benjamin Braun, spécialiste en physique statistique, physique quantique, diffusion des neutrons, physique de la matière condensée et de la science des matériaux, magnétisme et topologie. Il a notamment enseigné en tant que professeur de physique théorique à l'Université catholique de Dublin. Avec lui, nous allons faire le point sur l'évolution des enquêtes concernant le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2 à l'occasion du premier anniversaire de cet acte correspondant au 26 septembre 2022, qualifié par de nombreux spécialistes d'acte de guerre à l'égard de la Russie et de tous les pays européens partenaires de ce projet. Dans le contexte d'absence totale de résultats probants, d'enquête internationale impartiale et sérieuse visant à déterminer les responsables ou les commanditaires de cette attaque, le professeur Braun livre un témoignage unique sur cette question basé sur une étude purement scientifique. En effet, dans son rapport à la commission d'enquête Corona le 30 juin 2023, il estime que l'explosion qui a détruit les deux gazoducs était générée par une mini-bombe thermonucléaire d'une puissance estimée entre 1 à 5 kilotonnes, positionnée sur un site minutieusement choisi de façon à diriger principalement l'onde de choc sur l'enclave russe de Kaliningrad. Tout comme Seymour Hersh, le journaliste d'investigation américain, lauréat du prix Pulitzer, le professeur Braun soupçonne les États-Unis d'être à l'origine de l'attentat. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le 26 septembre 2023 marque le premier anniversaire du sabotage des deux gazoducs Nord Stream 1 et 2 qui relie la Russie à l'Allemagne et l'Europe à travers la mer Baltique. Plusieurs enquêtes tentent depuis d'identifier les auteurs de ce sabotage dans un contexte hautement sensible en raison de sa sensibilité et de l'évolution de la situation en Ukraine qui a pris des allures d'un conflit frontal entre l'OTAN et à leur tête les États-Unis et la Russie. À ce jour, la Russie n'a pas été autorisée à participer aux enquêtes et c'est dans ce contexte qu'elle organise aujourd'hui une réunion sur ce sujet au Conseil de sécurité de l'ONU. L'analyse du professeur Braun est basée sur 6 méthodes totalement indépendantes. Il s'agit de l'évaluation des données sismiques selon 2 méthodes, l'analyse de l'évolution des nuages d'aérosol après l'explosion, prise en compte des courants sous-marins en mer Baltique, notamment dans un canyon sous-marin entre Bornholm et Kaliningrad, au cours des jours suivants et l'évolution de la température sur le fond marin et la propagation d'éventuelles retombées radioactives après l'explosion. Le résultat du travail du professeur Braun est sans appel. En effet, selon lui, les mesures sismiques mettent en évidence une explosion d'une puissance comprise entre 1 et 5 kilotonnes de TNT, ce qui contraste énormément avec les conclusions d'autres études publiées à titre d'exemple dans la revue renommée Nature, estimant la dite puissance de l'explosion à un équivalent de 250 kg de TNT. La comparaison des mesures sismiques dans la mer Baltique, par exemple en Suède et en Finlande, avec les valeurs générées par un des essais nucléaires nord-coréens bien documentés, y compris par l'Institut de physique du globe de l'Université de Columbia aux États-Unis, qui s'est basé sur les données IRIS, montre des spectres quasiment identiques. Idem, selon le professeur Braun, les données enregistrées par des satellites dotés de caméras infrarouges 4 heures après la détonation montrent un nuage d'aérosol distinct avec une extension allant jusqu'à 100 km, s'est formé loin du site de l'explosion dans la direction du vent et dans la région de Kaliningrad en raison de l'impact des ondes de choc sur la pente abrupte de l'enclave. Même le site de l'explosion a été choisi pour réfléchir et amplifier les ondes de choc en raison de la côte suédoise de forme parabolique, leur permettant de se concentrer précisément sur Kaliningrad via le canyon sous-marin. La ville, distante de 500 km, a subi un effet sismique 10 fois supérieur à celui de sa voisine Bornholm, qui n'est qu'à 70 km du site de dynamitage du pipeline. Pour lui, un tel phénomène ne se produirait en aucun cas avec une charge de l'ordre de 250 kg de TNT, comme l'affirme Nature. Au cours des jours qui ont suivi l'explosion des gazoducs, d'importants courants sous-marins se sont formés dans la mer Baltique, concentrés dans le canyon sous-marin dirigé directement vers Kaliningrad. En conséquence, un courant vortex s'est formé dans le bassin de Bornholm, remuant, selon Nature, pas moins de 250 000 tonnes de sédiments qui se sont élevés à une hauteur de 70 mètres avant de se déposer. Ce processus aurait également rehaussé la température de l'eau de 4 degrés dans le fond marin pendant toute la période hivernale de 2022-2023, ce qui est loin d'être un phénomène naturel ou provoqué par une charge de 250 kg de TNT. Enfin, en Pologne, des retombées radioactives ont été un jour après l'explosion mesurée. En Suisse, un nuage radioactif ou des données radioactives ont été mesurées 3 jours après l'événement. En conclusion, le professeur Hans Benjamin Braun est catégorique. Aucune des 7 observations géophysiques indépendantes ne peut être expliquée par l'utilisation d'un explosif conventionnel. Une arme thermonucléaire doit avoir été utilisée. Le sabotage du Nord Stream était également une attaque ciblée par onde de choc contre Kaliningrad, ce qui fait des États-Unis le seul coupable plausible selon lui. Il estime qu'un drone sous-marin de type Lionfish pourrait être testé lors de l'exercice Baltops 22 de l'OTAN dans la région de Bornholm en juin 2022 et utilisé pour transporter la charge explosive sur les lieux le 26 septembre 2022. Tous les nouveaux détails sur cette affaire dans quelques instants avec mon invité, le professeur Hans Benjamin Braun, physicien suisse de renommée mondiale. Professeur Hans Benjamin Braun, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien. Alors, moi, ma première question, qu'est-ce qui vous a conduit sur cette piste pour vous poser la question de faire une analyse géophysique des retombées de l'explosion des deux gazoducs russes Nord Stream 1 et 2?
Alors, c'était d'abord, j'ai fait des études physique, mathématiques et sciences de terre. Alors, j'ai eu un peu l'intérêt pour des choses géophysiques. Et j'ai aussi reconnu qu'il y a la pipeline Nord Stream, c'est un élément très important dans le conflit, même avant ça a commencé avec l'Ukraine, parce que en fait, c'est une énergie énorme qui est transférée de la Russie en Allemagne par rapport à ces pipelines. C'est la Power, si je me souviens correctement, c'est comme des 50 stations nucléaires.
Oui, c'est cet ordre de grandeur, oui.
Ouais. Et alors c'est une énergie énorme et ça aide l'Allemagne de maintenir la position économique en Europe. Et alors j'ai et c'est même avant le conflit, on a pas commencé d'envoyer de gaz dans la nouvelle pipeline Nord Stream 2. Alors ça s'était arrêté. Alors j'ai reconnu que c'est un élément apparemment important. Et oui. Quand ça s'est passé il y a un an, j'ai pensé, oui, alors ça c'est très bizarre. Et j'ai commencé à regarder les éléments, que c'est passé dans la presse, que c'était écrit, et j'ai réalisé, ça ne fait pas de sens. Ouais, ça ne fait pas de sens quand parle d'une masse de détonation qui a une centaine de kilogrammes de TNT, c'est matériel détonant conventionnel, et au même temps, on a regardé des effets séismiques dans la plante, alors dans le cercle du Nord. Et ça, c'est pas possible de rejoindre ces deux aspects.
D'accord. Et puis, donc ce qui, en plus de l'aspect géopolitique de ce sabotage des deux gazoducs, il y a l'activité sismique que prétendument une charge explosive de 250 kg de TNT aurait provoqué dans tout le bassin de la mer Baltique, chose que vous supposez que pas du tout fiable d'un point de vue de l'analyse physique. Et pour vous, c'est une détonation, celle que l'on a remarquée, ça devrait être une détonation d'une bombe mini thermonucléaire.
C'est ça. Alors, le pas de la bombe thermonucléaire, il y a quelques pas entre d'être pas satisfait par l'argument. Et c'était aussi, et je peux présenter les éléments.
Bien sûr,
maintenant.
Donc là, je vous laisse, c'était juste pour mettre nos auditeurs dans le
contexte,
dans le bain. Et là, je vous laisse nous expliquer qu'est-ce qui vous a conduit à ça en nous présentant vos arguments scientifiques.
Oui, merci bien. Et alors, d'abord, c'est mon curriculum vitae, c'est un peu ennuyant. J'ai fait mes études en Suisse, c'était à Bâle, on fait à la frontière de la France et de la Suisse, et l'Allemagne, en fait, les trois pays. Et puis j'ai fait mon doctorat à Zurich, à l'ETH, c'est l'école normale de la Suisse, école ingénieur. Et puis je suis allé aux États-Unis comme postdoc, Canada, et puis je suis rentré en Suisse et je suis été à Grenoble souvent parce que j'ai fait des manips en diffusion de neutrons. L'installation institue là où est Langevin, là à Grenoble, et puis je suis parti pour Irlande où j'ai eu professorship en physique, en fait. J'ai enseigné une douzaine d'années des étudiants, j'ai eu des PhD students et j'ai publié dans des volumes des journaux scientifiques comme Nature, Physical Review Letters, comme mes collègues. Alors c'est mon background professionnel.
D'accord, c'est très important.
Alors la motivation, on en a parlé. J'ai été en fait perplexé par les rapports et aussi les autres champs. Par exemple, il y a un interview entre professeur Rick et docteur Perchman. Il était un expert des explosifs en Allemagne. Il a présenté et il a posé des questions qui ont été intrigantes pour moi. Et puis, c'est très important parce que tout le monde en Europe paye beaucoup, les choses sont plus chères.
Oui, l'énergie et tout ce qu'elle a provoqué comme inflation dans tous les domaines.
Oui, c'est ça. C'était comme un trigger. Et en fait, les États-Unis, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas décidé à commencer une investigation indépendante. Mmh. Alors, c'est un, comment dit-on, une summary. Des résultats. Alors j'ai vu aux dates sismiques et mm-hmm. ils sont publics. On peut, mm-hmm. il faut faire.
C'est les données sismiques. Vous parlez des données sismiques enregistrées après l'explosion des deux gazoducs.
Exactement. Mm-hmm. Ouais. Et puis j'ai vu aux dates de satellites. Ce sont des données européennes, Copernicus. Mm-hmm. Et on a vu des nuages d'aérosols qui sont étendus de la location de l'explosion. Puis j'ai vu des courants. Des courants sous surface dans la mer et par des distances de 50 km ou plus. Et puis la location où ça s'était placé, l'explosif, sur la pipeline Nord Stream 1, c'était la première, ouais. C'était exactement, on va voir, c'était exactement placé qu'on a pu prendre avantage de la coastline de Suède mm-hmm. qui a agité comme truc de
amplificateur.
De focalisation qui a focusé l'onde de
choc,
l'onde sismique vers Kaliningrad, Et puis on a
juste une seconde, professeur. C'est juste pour nos auditeurs. Le professeur Brown parle de la forme hyperbolique de la côte suédoise, en face de laquelle a eu l'explosion. L'explosion des gazoducs 1 et 2, et en fait, cette forme hyperbolique a servi d'enceinte pour focaliser l'onde de choc et la renvoyer vers les côtes de Kaliningrad.
Exactement. Mmh. On va voir une graphique, représentation après, ouais, mais c'était très, très... Très bien. Et puis, alors la température s'était élevée par 4 degrés. Et en fait, quand on voit où ça s'était élevé, c'était exact, c'était dans la région d'altitude où c'était 70 mètres. C'était sur la 70 mètres sous la surface, ouais. Mm-hmm. Alors, et la température s'était étendue dans une région de cette altitude de mer. Et puis on a détecté radiation de gamma dans la région après un jour. Ouais.
D'accord.
Alors,
les radiations gamma, ce sont des radiations qui sont émises par des produits radioactifs qui se désintègrent en envoyant un rayonnement électromagnétique qu'on appelle gamma.
Exactement, ouais. Bon. Et c'est ça. D'abord, il n'y a rien, absolument. Ces observations ne peuvent pas être expliquées par ce qu'on a entendu par la presse. Ouais. Une centaine de kilogrammes TNT et rien de ça peut être expliqué par ça. Alors, Cette hypothèse, ça a été une centaine de kilogrammes de TNT et un bateau à Dromeda et quelques... ouais, c'était des trois hommes qui ont mis ça. C'est absolument impossible. Rien de ça peut être expliqué par ça. Alors... Et en plus, ce qu'on voit, que ça a été une attaque vers Kaliningrad, parce que les ondes de choc, les ondes sismiques, ont été beaucoup plus fortes à Kaliningrad qu'on expecte normalement. Et la raison, c'est ce placement qu'on a parlé, c'est comme... miroir hyperbolique qui a réflecté les ondes sismiques vers Kaliningrad. Et alors, et ça c'est le overview les détails. Et maintenant, on peut discuter les aspects D'accord. différents. Comment je suis arrivé à ces conclusions. Alors, c'est ça. C'est aussi, en fait, on a caché des poissons dans la mer Baltique qui ont eu plus de césium 137 après septembre.
Le césium aussi, c'est un produit des explosions nucléaires qui est hautement radioactif.
Exactement. Alors, ça commence que les rapports premiers qu'on a reçus, ça a commencé avec un rapport qui était publié par NORSAR. NORSAR, c'est une agence sismique en Norvège. Joint venture avec Los Alamos National Lab, qui est un lab nucléaire aux États-Unis, qui en fait a été responsable pour le développement de la bombe nucléaire dans la guerre mondiale. Alors, et ce qui c'est remarquable, oui, c'est vraiment intéressant que vous voyez ici. Il n'y a pas des quantités, il n'y a pas des nombres ici, il n'y a pas rien. Alors, on peut pas, normalement, on extracte l'information de la détonation, de la magnitude du signal. Mais ici, il n'y a rien, il n'y a rien. Alors, on voit qu'il y a eu quelque chose à ce temps-là, mais on peut pas quantifier l'effet.
D'accord.
Quand même, le lab NORSAR, ils ont dit alors c'était 2.3 dans la magnitude 2 entre 2 et 2 2.3. La magnitude, c'est la magnitude comme une magnitude d'un mouvement de Terre. Et c'est la même quantité. Et ça, c'est très faible. Et on peut faire la relation entre ça et dire c'était 600 kilogrammes de TNT. Mais le problème, c'est avec ce nombre ça, on va voir que ça, c'est pas correct. Et ça, en fait, n'est pas justifié de quelque chose ici, parce qu'il n'y a pas des nombres, il n'y a pas des axes. Alors, il y a eu un signal qu'on peut identifier avec une explosion. Alors, on a détecté le signal de l'explosion. C'est absolument impossible qu'une centaine de kilogrammes de TNT
D'accord.
crée donc, un signal.
Donc, il y a une telle distance entre le lieu où l'explosion a eu lieu et l'une des stations de mesures des tremblements de terre en Suède, qui se trouve dans le nord, qu'il est impossible. Ouais. Il est clair que ce n'est pas les quelques centaines de kilos de TNT qui ont fait vibrer la terre jusqu'à ce qu'elle soit détectée dans ce centre.
Absolument. D'accord. Ouais. Exactement. Alors, c'est 1500 kilomètres ou quelque chose comme
D'accord.
ça. Ouais. Alors, c'est ça, ça ne fait pas de sens. Ouais. Alors, et en fait, il y a eu des rapports en fait par Nord Stream et ça a rapporté par Reuters aussi. Que par la compagnie Nord Stream, qu'il y a eu des technogenic craters avec une distance de 5 mètres. Mm-hmm. Et en fait, la pipeline a été détruite pour 200 mètres, une longueur de 200 mètres.
Ouais. De 248
Encore
mètres.
Encore une fois. Et alors ça, on peut faire la relation entre ça, cette dimension, la depth du comment dit-on, cratère.
Oui.
Alors le cratère, oui, le cratère de 5 mètres, on peut faire la relation entre l'explosif et la dimension. Du cratère. Et ce qu'on reçoit, c'est alors ça va avec c'est un peu mathématique, ouais, c'est le cube des dimensions verticales, alors des 5 mètres. Alors, ça doit être entre 3, ou le 3 puissance 3 ou 5. Alors c'est entre 30, 27 et une centaine de tonnes de TNT.
De tonnes.
On ne parle pas des kilogrammes ou une centaine de kilogrammes, on parle des tonnes. C'est un facteur de 1000 différents.
Et comment on a pu faire descendre une telle quantité de TNT à une profondeur de combien de centaines de mètres pour faire péter le
faire ce trou, ouais.
Que personne ne se rende compte en plus.
Ouais, ouais. Et ça n'a pas été Andromeda, définitivement pas.
Ouais.
Alors, et ça n'a rien à faire avec l'analyse que j'ai faite. C'est seulement pour présenter.
Oui.
Ça ne fait pas de sens. Ouais. Alors, ça, c'est la conclusion de ça. Alors, ça ne fait pas de sens, ouais, absolument pas. Et personne, a dit, mais arrête un moment, ouais, attends un moment, ça ne fait pas de sens. Ouais. Et puis, on peut faire la connexion avec la relation de l'exercice Baltops. Dont on a parlé, le Baltops exercice, c'était au mois de juin.
C'est Baltops, c'était les manœuvres maritimes de l'OTAN en juin dans la région de Bornholm où il y a eu l'explosion.
Exactement. Et une des aspects était on a pratiqué des UUVs, Unmanned Underwater Vehicles, des robots, des bateaux robotiques. Mm-hmm. Et on a aussi pris l'imagerie de la topographie de la mer, ocean floor. Ouais. Mm-hmm. Et ça, c'est très important. Parce qu'on a vu la connexion entre Kaliningrad et le place de détonation, c'était très important de connaître exactement la location du canyon et des pierres larges et tout ça.
Ainsi s'achève la première partie de notre entretien, chers auditeurs. Je vous retrouve en compagnie de mon invité, le professeur Brown, pour la seconde partie de notre émission. Après une courte pause musicale, à tout de suite. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zone de Contact et Afrique en Marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi à 19h sur Maliba FM. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Chers auditeurs, on retrouve le professeur Hans Benjamin Braun pour la seconde partie de notre entretien. Donc, je vous laisse continuer votre argument par rapport à ce que vous avez commencé tout à l'heure.
C'est connu, il y a des substances radioactives dans la mer Baltique et on ne connaît pas l'origine de ça. On a vu que c'était Weapon Dump, cette région, et en fait, sur la carte, c'est indiqué que le fishing, c'est dangerous. D'avoir des poissons.
La pêche est dangereuse.
La pêcheuse, c'est dangereux. Et au même temps, il y a une publication au Nature Communications qui indique que il y a qu'il y a des radionuclides.
Oui.
Et on ne connaît pas l'origine de ça. Alors, ça indique que n'a pas seulement déposé des trucs explosifs de la guerre mondiale, mais aussi peut-être des stations nucléaires ou quelque chose en plus.
D'accord.
Alors, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Alors, c'était pas un accident. C'était pas des gens avec Andromeda, avec un truc nucléaire par accident. Ils sont tombés. La décision, ça reste avec le président des États-Unis.
Bien sûr, c'est dans la doctrine nucléaire américaine. L'utilisation des armes nucléaires, tout comme en Russie, il faut avoir l'autorisation du président lui-même, sinon on ne peut pas les utiliser. D'ailleurs, c'est lui qui porte les codes des utilisations nucléaires. L'exposé, professeur, est extrêmement clair. Donc, en deux mots, votre conclusion, s'il vous plaît, par rapport à ça.
Oui, c'est ça. Oui, alors la conclusion, c'est un peu… Alors, ça, c'est ce que j'ai fait avec les résultats. C'était envoyé au gouvernement suisse, puis parce que la Suisse est au conseil UN. Et puis, je l'ai envoyé au mois de janvier, quelqu'un à l'MIT, qui a dit qu'il y a un rapport qui va être écrit, et ça, ce rapport, c'était l'article par Hirsch.
Seymour Hirsch.
Alors, oui. Alors, le collègue à l'MIT, il a vu mes conclusions, mon manuscrit avant l'article de Hirsch.
D'accord.
Et puis, je l'ai envoyé au rapport de UN Conseil, SOX, mais il n'a pas envoyé, je ne sais pas ce qu'il a fait avec ça. Et puis, j'ai fait une réplique, je l'ai aussi envoyé au représentatif diplomatique en Suisse, pour la Russie, les États-Unis. Chine aussi, France indirectement, parce qu'il y a des Nobel Prize winners de la France. Et puis, je l'ai envoyé aux autorités suédoises, parce qu'ils font les investigations, et je n'ai pas reçu aucune réponse. Et puis, je l'ai envoyé à Den Haag, et gouvernement des États-Unis.
Donc, pour conclure, professeur, pour vous, et sans avoir la preuve formelle à 100%, mais les données qui ont été ramassées et analysées, ce que vous dites exactement, si j'ai bien compris, que ce qui est avancé dans la version officielle ne tient pas du tout la route, compte tenu de tous les effets qui ont été mesurés. Et c'est des faits, on ne peut pas démentir. Quant à l'augmentation de la température, la disparition des algues, les sédiments, les 250 000 tonnes de sédiments soulevés, et en même temps, le choix du site par rapport à l'effet miroir de la côte suédoise qui a renvoyé les ondes vers le Kaliningrad, et en plus de ça, c'est-à-dire tout ça ne corrobore pas avec l'histoire de quelques dizaines ou voire de centaines de centaines de kilos de TNT. Bon, vous vous dites d'après les calculs qu'il y a il faut des centaines de tonnes de TNT et tout le monde connaît que la région de Bornholm est tellement surveillée par le temps que même quand un poisson passe, on sait qu'il est passé. Par cette région-là. Alors, pour dire que on a pris le temps, on a ramené toute la logistique nécessaire pour descendre des centaines de tonnes de TNT pour détruire les Nord Stream 1 et 2 est absolument absurde. Et en plus de ça, il y a toutes les radiations nucléaires qui ont été mesurées et qui ont été détectées et la comparaison entre les spectres des explosions et les spectres d'explosions nucléaires, tout concorde. Et donc, votre conclusion, c'est ce que j'ai lu aussi dans votre article, que il est fort probable que ça soit une bombe thermonucléaire, une mini-bombe thermonucléaire envoyée par un drone de quelques kilotonnes et pour détruire les Nord Stream et créer tous les dégâts en direction de l'enclave russe de Kaliningrad. Bien. Alors, quelques questions maintenant d'économie et de géopolitique avant de conclure l'émission. Alors, pouvez-vous nous dire quelle est la situation actuellement en Europe après la destruction de Nord Stream 1 et 2 concernant l'inflation et concernant les approvisionnements en énergie?
C'est clair que l'industrie d'Allemagne est souffrant. Absolument, il y a parce que c'est ça. C'est même avant la destruction de Nord Stream, les États-Unis ont commencé à produire plus de LNG, c'est liquide,
le gaz liquéfié. Le gaz naturel liquéfié.
Pour liquéfier le gaz, il faut réduire la température. Et ça veut dire qu'il faut plus d'énergie. Ouais. Mm-hmm. Et l'énergie, c'est comme la moitié de l'énergie qui est contenue dans le gaz. Et en fait, on en a besoin pour faire la réfrigération.
Ouais.
Alors, c'est par rapport à l'énergie et pour des idées vertes et pour l'environnement, c'est absolument c'est kafkaesque, hein?
C'est
bizarre.
C'est catastrophique.
C'est bizarre. et en fait, c'est aussi parce que 50% plus, en fait, ça coûte 50% plus au moins. Alors, ça fait la transition
Et comment dire pour comprendre qui aurait pu faire le crime, il suffit de se poser la question à qui il profite pour avoir une idée où il faut investiguer. À combien vous évaluez la puissance de la bombe qui aurait été utilisée pour détruire le Nord Stream 1 et 2?
Alors, quand on fait la combinaison de tout, parce qu'il y a des trucs, et je pense c'est probablement, mais encore une fois, les relations sont logarithmiques. Alors, quand on fait ça, il y a une grande il faut une grande différence de l'explosif pour avoir
des ordres de grandeur aussi grands.
Oui. Alors, je pense que c'est entre 1 et 5 kilotonnes TNT.
D'accord.
Mais ça pourrait être un peu plus, mais je ne trouve pas que c'est vraiment sous kilotonne, je ne pense pas les effets. Mais l'analyse séismique, c'est plus ou moins statistique. Alors, ça place une limite, mais c'est statistique. Et il y a aussi, il faut regarder que l'énergie séismique, c'est seulement une fraction. Il y a l'énergie dans l'eau par la température,
ouais. Ouais.
Il y a l'énergie dans,
qui éjecte les aérosols.
Et l'énergie de destruction. Alors, on a détruit le pipeline pour des centaines de mètres.
Ouais.
Et alors il faut considérer tous les aspects. Et je pense que c'est plus ou moins c'est au moins une kilotonne, je pense.
Ouais. D'accord.
Réaliste. Ouais. Ouais. Alors, c'est pas grand. Il faut considérer, il y a des. Et ça, c'est le danger. Parce que ça, c'est une kilotonne. D'abord, il y a des efforts des gens, des représentants militaires, de faire une interpolation entre des bombes nucléaires et des bombes conventionnelles. Ça, c'est évident. Mais ça, on a parlé de ça depuis des dizaines, des années. Et en même temps, les bombes thermonucléaires, ils peuvent avoir un pouvoir de une centaine de mégatonnes. Alors, on parle d'un facteur 1000, 10 000, 100 000 plus qu'on a parlé ici. Alors c'est virtuellement, ça n'a pas de limite. Ouais. Et ça, c'est le danger, parce que quand on commence, alors on commence et puis un peu plus, et est-ce qu'il y a une fin?
C'est comme le feu.
Où est la fin? La fin, c'est notre fin, ouais.
C'est comme le feu. On dit dans l'adage, on sait où il commence, mais on ne sait jamais où il se termine.
Absolument. Et d'abord, on a eu le gap entre les bombes conventionnelles et les bombes nucléaires. Et c'était évident. Alors, quand on commence là, c'est ça. Et la plupart des gens, ils ont l'idée qu'il y a ce gap. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est une transition virtuelle. On a vu de cette discussion, c'est une centaine de kilogrammes de TNT, peut-être un peu plus. Alors, ce n'est pas clair. Et ça, c'est vastement dangereux. C'est absolument dangereux. Ouais. Et ça, c'est la raison que ça a été fait. Donc, c'est mon avis. C'est un message. C'est un message. Nous pouvons faire ça. Et vous savez, quand nous pouvons escaler ça.
Augmenter la puissance comme on veut.
Oui, et sans limite. Et les gens, le public ne sait rien. Ouais. Et les responsables, ils le savent, et ils sont sous pression. Ouais. Ouais, ils n'ont pas de choix. Ouais. Et ça, cet aspect des bombes nucléaires, thermonucléaires, c'est vastement dangereux. Ouais. Où est la limite?
Absolument.
Ouais. Où est la limite? Et ça, c'était la raison que j'ai insisté de clarifier ce que s'est passé. Et c'est clair, ceux qui sont responsables, ils n'ont aucun intérêt qu'on le fait public, ouais, parce que ça c'est parti de cette chose, ouais, de le faire connu pour les responsables, mais le public, on ne sait rien. Ouais.
Est-ce que vous pensez, à votre avis, que c'est ça justement qui fait, disons entre guillemets, fait peur, notamment aux pays européens, les États-Unis, je n'en parle même pas, parce qu'à ce jour, il n'y a pas d'enquête qui a été diligentée, une enquête réelle. Alors que ils ont même un bureau de la CIA en Finlande. Qui n'a même pas que l'administration n'a même pas sollicité pour avoir un rapport sur ce qui s'est passé ce jour-là de la destruction des gazoducs. C'est ce que Seymour Hersh a dit dans une conférence publique. Et c'est quand même bizarre tout ça.
Oui. Je pense le danger, c'est vraiment comme c'est moi comme physicien, je le vois, c'est l'interaction des trucs différents. On vit dans un monde qui est tellement interconnecté, et c'est par ça je dis, il y a le monde financier, il y a le monde militaire. Le monde politique, le monde économique, mais tous sont tellement interconnectés que c'est dangereux. Ouais. En fait, quand vous lisez le livre de Adam Smith, il dit que sa théorie d'économique ne marche pas. Quand il y a des groupes qui influencent les gouvernements pour protéger leurs intérêts. Alors, il y a ça. Et c'est exactement ça, maintenant. On a arrivé à ça. Alors, on n'a plus de toutes les théories économiques. Ils n'existent plus. Ils ne marchent pas. Parce qu'on se trouve dans une situation que tout est tellement interconnecté. C'est comme, et le danger que, quand dans le monde interconnecté et ce sont des avalanches, ouais. On a une perturbation et ça a nos conséquences que quelque chose d'autre et puis il y a quelque chose.
Et puis par rapport à ce que vous êtes en train de dire, il y a l'histoire de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale, c'est exactement ces facteurs-là interconnectés qui ont généré ces deux déflagrations. Au-delà des acteurs, l'un c'est l'un ou l'autre, mais le contexte, disons la courbure de l'espace-temps, hein, qui provoque les interactions entre les différents corps, c'est justement ça, c'est ce que vous avez décrit. Et on est exactement dans des choses extrêmement dangereuses et qui sont à des années-lumière beaucoup plus importantes que ce que leur ordre de grandeur lors de la Première ou de la Seconde Guerre mondiale.
Exactement. Et c'est ça, parce que il y a deux aspects ou trois aspects. Il y a la destruction de la pipeline, oui. On aurait pu faire avec des choses simplement, quelques kilogrammes de TNT, ça aurait pu possible, mais on a fait différent. Et ça a ouvert la fenêtre de comme j'ai écrit, c'est un scénario de Dante, oui. Parce que c'est vraiment le mécanisme de faire les pays, de faire les choses ce que un petit groupe veut faire. C'est absolument dangereux. Ça n'a rien à faire avec démocratie. Rien, absolument rien. Hein? On en parle de démocratie, mais ça, c'est le contraire de la démocratie. Et ce sont ces conséquences que je trouve vraiment dangereuses dans ça. Parce que ça touche tout le monde. Tout le monde.
Absolument.
Ça touche même les riches, parce que c'est un peu plus tard, mais ça les touche. Ouais.
Et quand on arrive à ce genre d'armement, en particulier avec des missiles balistiques intercontinentaux hypersoniques, mm-hmm. la Terre devient comme un paquebot, comme le Titanic. S'il y a un coin qui explose, c'est tout le bateau qui coule.
C'est tellement terrible. Et ce que c'est possible, et il y a l'aspect que les gens ne le savent pas. Oui, ils sont absolument ignorants. Il y a une nouvelle d'un écrivain suisse, en fait, Dürrenmatt. Je pense qu'il a été proposé pour un prix Nobel de littérature. C'est ça. Et l'histoire, c'est comme ça qu'il y a un train qui entre un tunnel. Et lui, il est là dans le train, il se trouve, et c'est bizarre. Et le tunnel, ça dure. Alors, il commence à marcher dans le train. Et le tunnel, ça finit pas. Hein. Et il se trouve, les gens, ils font des célébrations, des parties. Et puis, il trouve le contrôleur du train, il est un peu, ne sait pas ce qui se passe. Et puis, il va à la locomotive et il n'y a personne là. Il n'y a personne. Alors, tout le train va au centre de la Terre. Et ça, j'ai l'impression que c'est la situation.
Il n'y a pas de pilote dans l'avion, comme on dit. Il n'y a pas de pilote dans l'avion.
C'est vraiment dangereux. Et puis, ça, c'est la conséquence. Peut-être on peut parler de ça, de ces aspects pour la fin. En fait, les gens, pendant l'architecture de l'OTAN, ils ont parlé, peut-être, je fais la conclusion de ça, peut-être, d'abord, parce que les gens, c'était la première thèse, c'était la Russie. Et je pense que j'étais le premier, c'était même à Noël, l'année passée, on a parlé, c'était la Russie. Et je pense que j'étais le premier qui a dit non. Alors, j'ai l'évidence et tout ça. Et encore une fois, Seymour Hersh, il a écrit son pièce après avoir vu ça. Alors, d'abord, c'est impossible que c'était la Russie. Oui. Alors, la deuxième partie, c'était pas l'Ukraine parce qu'ils n'ont pas des trucs nucléaires. Alors, ils n'ont pas l'autorisation. Alors, c'était pas. Peut-être ils ont aidé dans une façon ou une autre passé. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Alors, c'est clair. La contribution de l'UK, ce n'est pas si clair, mais les États-Unis, ils ont les bombes, ils ont les bateaux robotiques, sous-marines robotiques. Et ils ont pris les cartes de la topographie de la région. En fait, les cartes de tout le monde, bathymétriques, sont dans le contrôle des États-Unis. Si vous voulez obtenir quelque chose au Japon ou quelque part, c'est contrôlé avec les États-Unis. C'est évident. Hein? Alors, ça c'était ma conclusion parce que je n'ai pas de connaissance des agences secrètes, ce qu'ils ont fait comme Seymour Hersh a eu, mais ça c'était ma conclusion de ça. D'accord. Alors, Ça, c'est la conclusion de tout ça. Et le deuxième, c'est les gens, ils disent non, c'était Fireball, c'était tout grand, et les bombes nucléaires, ça, c'est un minimum d'une vingtaine de kilotonnes et tout ça. Et c'est non, il y a de progrès scientifiques, et comme en fait, on contrôle l'émission des bombes thermonucléaires, c'est un secret, c'est un top secret.
Et bien sûr.
Personne ne sait, sauf les gens qui ont signé. Et ça, c'est un exemple. Alors, c'était il y a 3 ans, ils ont mis en service aux États-Unis, c'était 5 kilotons. Hein? Alors, c'était 5 kilotons. Alors, c'est apparent qu'il y a des bombes sous 10 kilotons, 10 kilotons. Mm-hmm. En fait, il y a des sous hein, comme on a vu, il y a aussi des bombes avec moins d'une kilotonne. Et ça, c'est intéressant parce que quand on a parlé de l'OTAN, c'était après la guerre mondiale, c'était dans le Congrès des États-Unis, et ça, c'était, ça s'appelle Vandenberg Resolution. On peut le voir en ligne, en Google. Et il y a une discussion à la page 274. Senator George, if you turn 10 or 11 of these states, si vous prenez 10 ou 11 des pays de l'OTAN et ils tournent vers un autre. Mm-hmm. Et dans ce cas, on a l'OTAN et on a Allemagne. Ouais. Et you have ended your North Atlantic Pact. Vous avez terminé l'OTAN. Et vous pouvez l'oublier. Ouais. Alors, ce n'est pas mon conclusion, c'est écrit dans ce document. Hein. Mm-hmm. Tout le monde peut. Alors, ils ont considéré la situation qu'il y a quelque chose comme ça. Et ça, c'est grave. Et ça a vraiment des conséquences géopolitiques. Ouais. Alors, on voit les relations entre la science et la géopolitique, et c'est important.
Absolument.
Et quand les scientifiques, ils ne parlent pas parce qu'ils sont, ils ont peur, on a un problème. Ouais.
D'accord.
Et c'est ça. Alors, oui, et c'est ça. Ça, c'est la conséquence. C'était aussi intéressant. Et c'est intéressant. C'est une semaine après le Nord Stream. C'est octobre l'année passée. Il y a à Bloomberg, il y a un article que Poland a parlé des bombes nucléaires. A voulu sharing, comment dit-on, partager des trucs nucléaires avec les États-Unis. Bien sûr, on sait, en fait, en Pologne, tous les défensifs, installations défensives, en fait, peuvent être converties dans des installations offensives. Mais
oui.
C'est un sujet, on discute une semaine après l'incident.
Ouais.
Mais oui, en fait, c'est ça. Et finalement, c'est ça. Je pense que c'est pas seulement l'escalation, la couverte, opération couverte et tout ça. C'est aussi, on a commencé maintenant à faire la combinaison entre des intelligences artificielles par rapport à des robotiques, des véhicules robotiques en l'air, dans la mer, et des bombes nucléaires. Alors, et c'est incroyable. Alors, on est arrivé où, hein? Qui fait les décisions de quoi? Ouais. Alors, c'est vraiment une situation qui est absolument, terrifying.
Terrifiante.
Terrifiante, ouais.
Je vous remercie, professeur.
Merci bien.
C'était le professeur Hans Benjamin Braun, spécialiste en physique statistique, physique quantique, diffusion des neutrons, physique de la matière condensée et de la science des matériaux, magnétisme et topologie. Il a notamment enseigné en tant que professeur de physique théorique à l'Université catholique de Dublin. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.